le pouvoir d'agir.
Donner la parole aux jeunes entre 16 et 30 ans et valoriser leurs projets et loisirs.
Passion professionnelle.
Le pouvoir d'agir.
Vous êtes bien à l'émission Le Pouvoir d'Agir au 93.7 sur Radio Transparence. Aujourd'hui, une émission dédiée sur une seule thématique qu'on va essayer d'aborder sous tous les angles, donc à savoir l'alimentation et l'agriculture. Alors, pour approfondir cette réflexion, sont avec moi Margot, 29 ans, Kéliane, 24 ans, Solène, 29 ans et Aurore, dont la thématique représente bien son sujet, parce qu'en fait c'est son sujet d'étude en master, et Sébastien qui travaille au PETR dans le pôle équilibre territoire rural de l'Ariège sur aussi les questions de l'alimentation. Alors déjà, ben voilà, bienvenue à vous, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. J'aimerais pour commencer faire un petit focus sur vos parcours respectifs et les raisons de votre présence ici. Alors Margot, pourquoi pas.
Bonjour, du coup. Moi, c'est Margot. Pour mon parcours un peu professionnel, j'ai un parcours somme toute des plus classiques. Après un baccalauréat scientifique, j'adorais la cuisine, donc j'ai fait un BTS hôtel et restauration.
Okay.
J'ai travaillé dans des étoiles au guide Michelin. Il y avait des choses qui me plaisaient et d'autres non. Je suis allée voyager au Mexique et là, j'ai rencontré une cuisine beaucoup plus traditionnelle avec du terroir, et ça a fait quelque chose en moi et je me suis dit, ah, j'ai envie d'ouvrir une entreprise. Il me manquait encore des bases, donc j'ai fait une licence commerce et un master en digital marketing.
Ouais, on t'arrête plus, quoi.
Voilà, c'est ça. Et après, je me suis dit, c'est bon, je suis prête. Et la vie a fait que j'ai eu un terrain, on me prête un terrain aujourd'hui, et mon père est maraîcher. Et
d'accord.
Il m'a dit qu'il m'aidait sur la partie agricole. Et du coup, aujourd'hui, je fais du tartinable végétal que je transforme. Donc, je produis les légumes et je les transforme depuis le 1er avril 2022.
Alors, un tartinable végétal, c'est-à-dire, c'est un champ, entre guillemets.
Alors, c'est je produis dans un champ des carottes, des betteraves, tout ça, et je fais de la transformation. Du coup, je stérilise comme du pâté qu'on peut retrouver de viande, mais je fais la même chose, mais avec du végétal. Seulement
d'accord.
Du végétal.
Ok, donc après on peut le tartiner sur du pain,
c'est,
c'est fabuleux, quoi.
Ouais.
Ok, alors sois avec moi aussi dans Solène, raconte-nous un petit peu aussi ton histoire, quoi.
Salut, du coup, moi avec mon compagnon, on était saisonniers, on travaillait dans les sports d'hiver en montagne, et on faisait saison, voyage, et au bout d'un moment, on a eu envie de changer, se poser, être plus en accord avec nos idéaux. Du coup, on a monté une petite ferme au Peyrat, on a commencé il y a un an et demi maintenant, et on fait donc 3 hectares de houblon qui serviront aux brasseries locales à faire de la bonne bière. On a un pré-verger de pommiers à cidre en haute tige, et en dessous on va mettre les bêtes, donc on va avoir des poules pondeuses et des moutons.
D'accord, ah. Donc t'as plusieurs secteurs d'activité au final.
Oui, pour pas mettre tous ces œufs dans le même panier.
Ouais, oui. Kélian aussi, raconte-nous un petit peu.
Et moi j'étais donc en filière technologique, j'ai attaqué une première année de médecine. Ça m'a pas plu, je suis parti. J'ai pris 2 ans pour réfléchir à ce que j'aimais. Je me suis rendu compte, en fait, j'ai découvert complètement par hasard, suite un peu à mon presque burn-out en médecine, j'ai dit je me casse, je vais en pleine nature. J'ai une amie qui avait besoin d'aide, je suis allé aider ses parents, qui étaient agriculteurs, j'ai découvert l'agriculture comme ça. Et donc derrière, j'ai commencé à réfléchir un peu plus large sur qu'est-ce que je voulais faire, et je me suis rendu compte que c'était là-bas que je m'étais le plus éclaté dans ma vie, que je pensais que ça pouvait vraiment devenir une passion.
Ouais.
J'ai commencé à chercher, j'ai fait une formation en apprentissage, un BPREA, et du coup j'ai fini ma formation, validée, je suis donc en CFI avec mon maître d'apprentissage, précédemment mon maître d'apprentissage du coup.
Ok.
Et on est en brebis laitière, on fait de la transformation, donc on fait de la tome, des yaourts, de la brousse, des pâtes molles et des lactiques. Et donc on vend sur le marché, et on vend aussi à différentes PME.
Ah ouais, donc on voit que vous avez quand même chacun, on va dire, un panel différent, quoi. Vous n'êtes pas... C'est intéressant, ouais. Aurore, donc, le fameux master, raconte-nous un peu, parce qu'Aurore est aussi un peu à l'initiative de cette émission, donc c'est bien que tu sois là et que tu puisses aussi parler de ton expérience, quoi.
Salut, moi c'est Aurore, je suis étudiante en master gestion des territoires et développement local à la faculté de Foix, et là actuellement je suis en stage,
ouais.
Du coup, je suis en stage avec l'association Cap Essence, mais aussi le PETR, donc le pôle d'équilibre territorial et rural, ouais. Et le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport.
Oh là là.
Et t'as vu, c'est long, hein. Et du coup, mes missions, ça porte sur la participation citoyenne des jeunes, okay. Entre 15 et 30 ans, autour des thématiques de l'alimentation et de l'agriculture. Et plus précisément, c'est en quoi mobiliser et intégrer les jeunes ariégeois à peut-être enrichir la transition agroécologique et alimentaire. Sur le territoire du PETR.
Et puis des missions faciles en plus. Hein, c'est... Et du coup, en parlant du PETR, ce qui est bien, c'est qu'on a, un représentant ici. Et du coup, voilà, Sébastien, explique-nous aussi un peu qu'est-ce que c'est le PETR et quelles sont un peu ses missions. Alors, plus axé sur ton poste du coup, sinon je pense que ça pourrait durer une demi-heure. Mais...
ouais, carrément. Donc, le PETR de l'Ariège, c'est un syndicat mixte composé d'une cinquantaine d'élus représentatifs des sept intercommunalités. De l'Ariège, donc hors la partie Couserans. Et donc cette structure bosse depuis l'après-Covid. Tous ces élus se sont rassemblés pour dire bon, il faut travailler l'enjeu de la relocalisation alimentaire, de notre souveraineté territoriale sur l'alimentation et faire évoluer l'agriculture vers une transition agroécologique.
Ok, donc ouais, on est vraiment dans le thème, quoi, pour le coup.
Donc pour cela, voilà, y a le label Projet Alimentaire Territorial, sur lequel le territoire est lauréat depuis 2 ans, et qui amène un travail de mobilisation donc de l'ensemble des acteurs. C'est ça un peu l'enjeu et le corps de métier. Donc regrouper des producteurs aux consommateurs, des citoyens et des acteurs professionnels pour discuter de ces enjeux-là. Donc ça passe par les enjeux de foncier agricole, comment aider des jeunes à se saisir d'opportunités foncières et s'installer en lien avec la transmission, reprise des exploitations, mais pas que on traite pas seulement le volet agricole, mais aussi tout le volet alimentaire avec l'accessibilité sociale pour les personnes en précarité à une alimentation locale et de qualité, les enjeux de santé, avec des problématiques d'obésité et d'affections de longue durée présentes sur le territoire, ainsi que tout le volet économique de l'alimentation avec les outils de transformation, de logistique, la distribution par des épiceries locales, par des magasins de producteurs, des drives fermiers. Voilà, tout ça c'est systémique, comme on dit, le gros mot un peu à la mode.
Ouais.
C'est complexe et voilà, mon boulot à moi, c'est de faire monter la mayonnaise, de mettre ensemble les ingrédients, okay. pour que tout ça dialogue et fonctionne.
Encore une autre mission facile.
Non, mais en tout cas, c'est hyper intéressant et enrichissant.
Ah ben ça, je veux bien le croire. Du coup, moi, ça me fait aussi écho à certaines questions que j'avais sur vos parcours. Déjà, quand on entend aussi ce qui est mis en place en Ariège au travers du PETR, etc., est-ce que quand on se lance dans ce genre d'activité, est-ce qu'on est de suite un petit peu au courant des aides qu'on peut avoir sur le territoire ou pas forcément, et au final c'est quand même un petit peu la galère quand on est jeune, quoi.
Moi je dirais que ça dépend. À la formation, on va nous parler de certaines subventions, de certaines aides auxquelles on aurait droit. Après, forcément, on n'aborde pas tout, pas toutes les aides, pas toutes les subventions. Mais après, normalement, en se dirigeant vers la chambre d'agriculture, on peut avoir accès à un conseiller qui, dites si je dis une bêtise, mais qui derrière peut nous parler de ses aides et justement nous aiguiller sur un peu quelles aides peuvent nous aider sur notre projet.
Margot, c'est aussi ton ressenti là-dessus ?
Alors moi, j'ai pas eu la formation BPREA, donc du coup, quand je me suis inscrite à la chambre d'agriculture, ils m'ont demandé de faire une réunion qui s'appelle le PAI, je crois, que je me trompe pas. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai entendu parler des aides. Donc effectivement, d'accord. J'en ai eu écho.
Ok, écho assez rapidement au final.
Assez rapidement, oui, dès que j'ai ouvert l'entreprise.
Et toi, Célène, t'as eu des...
J'ai eu le même parcours avec le PAI et puis après des formations obligatoires qui sont assez intéressantes. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'aides que des fois, on est un peu noyé dans toutes ces aides.
Okay.
Et on ne sait pas trop laquelle on peut vraiment avoir. Et aussi, toute la démarche, tout l'administratif qu'il y a à faire pour avoir ces aides, des fois, ça fait un peu peur.
Clairement.
J'imagine. Et puis là, cette année, ça change un peu. Donc c'est un peu le flou sur les aides. Donc on tombe un peu sur l'année pas top pour les aides.
Puis, elles ne sont pas toujours sans conditions non plus. Rarement sans conditions, d'ailleurs.
Ouais, bah, de toute façon, ça fait aussi écho à pas mal d'autres secteurs d'activité. Hein. Je pense voilà, au tourisme, au voyage, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui existent et parfois un peu trop, ou parfois c'est un peu compliqué d'être au courant de tout ce qui se passe. On avait abordé aussi en off la question des terrains et c'est un sujet que j'aimerais bien vous poser maintenant avant d'approfondir le sujet. Alors, est-ce que c'est facile d'avoir accès à des terres? Alors, facile, j'imagine que non, mais est-ce que c'est une grosse galère?
Pour ma part, oui, ça l'est. Après, peut-être que je suis pas un bon chemin, mais en tout cas, le chemin assez classique de regarder et d'aller voir sur Internet pour voir s'il y a des terrains, ils sont extrêmement chers. Et il y a la problématique autour, il y a des terres, mais qui se vendent pas, ou les personnes autour de nous sont aujourd'hui n'ont pas envie de les vendre. Donc oui, effectivement, le lien est compliqué à... Enfin, moi, j'ai du mal, en tout cas, à trouver du terrain et peut-être parce que je cherche quelque chose un peu spécifique.
Ok. Seb, tu voulais rebondir ?
Non, non. Aujourd'hui, le constat, il est compliqué sur le foncier agricole. Donc, face à une forte urbanisation, donc voilà, où on vient grappiller des terres agricoles, les chefs d'exploitation aujourd'hui qui vont vendre leur exploitation, souvent, c'est des exploitations assez
grosses
en termes de surface, ouais. Exactement. Et donc, il y a toute une réflexion qu'il faut avoir avec ces jeunes sur comment on peut faire des reprises de fermes en collectif. Et réorienter aussi d'anciennes productions agricoles plutôt conventionnelles sur du vivrier, du nourricier pour le territoire. En tout cas, nous, on essaie d'aider sur ça, mais voilà.
Complètement.
La transmission reprise.
C'est ça.
Nous, on a eu beaucoup de difficultés à trouver du terrain. Et parce que, bon, on voulait être près de la montagne, un terrain plat et irrigable, donc ça faisait quand même pas mal de critères. Et au final, on a trouvé un terrain, mais on nous a beaucoup reproché, la SAFER, les voisins, d'avoir payé ça trop cher. Mais le problème, c'est qu'en fait, en voyant les crédits qu'augmentent, les matières premières qu'augmentent, tout augmente. Et sauf que tu as ton projet en tête et puis tu le vois un peu passer à la trappe parce que tu saisis pas l'opportunité. Donc au final, tu le prends et tu l'achètes au prix fort.
Et oui, le risque d'atteindre pour le payer encore plus cher, c'est ça ouais. Mmh. Ok. Kylian, tu voulais aussi
C'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'il y a des exploitations qui cherchent toujours plus à s'agrandir et qui du coup prennent des petites parties de terre parce que dans l'esprit des gens c'est ouais c'est trop petit ça servira pas pour s'installer alors que je suis pas d'accord un maraîcher peut commencer avec 500 mètres carrés enfin pardon 5000 mètres carrés oui non 5000 mètres carrés et petit à petit grandir mais même juste enfin rien qu'un hectare déjà en maraîchage c'est beaucoup énorme. De travail et c'est aussi une possibilité d'être il me semble en tout cas viable derrière. Voilà, on peut pas non plus taper sur ceux qui essaient aussi de s'agrandir pour créer d'autres systèmes. Voilà, c'est un tout qui est assez complexe et effectivement, je pense que l'urbanisation est une des causes du fait qu'on trouve de moins en moins de terres.
Il y avait Sébastien qui parlait justement de rendre plus accessible aux jeunes qui veulent se lancer dans ces activités-là. Est-ce que vous trouvez que du coup, ce métier-là, ça représente plus, on va dire, une petite niche en Ariège, ou est-ce qu'on a de plus en plus de jeunes surtout qui s'intéressent au métier de l'agriculture et ou de l'alimentation d'ailleurs et qui ont envie justement d'acquérir des terres et de se projeter dans ses voies professionnelles.
Oui, de plus en plus. Enfin, en tout cas, dans mon entourage, de plus en plus. Mais c'est compliqué de déjà trouver exactement ce qu'on veut faire et surtout de trouver les terres. Il y en a plein qui sont bloqués à cause de ça.
Moi, j'ai un chiffre quand même où on peut faire cocorico pour l'Ariège. c'est qu'on est un des seuls, voire le seul département français où le taux d'installation des agriculteurs est positif. On est sur une décroissance constante depuis les années 50 du nombre d'agriculteurs en France. Et en Ariège, cette année, on peut se féliciter que la courbe s'inverse et on espère que ça continue dans ce sens.
Vous pensez que c'est un lien directement avec peut-être une plus grosse sensibilisation aux questions environnementales, écologiques, transition alimentaire, ce genre de choses? C'est quelque chose où vous sentez qu'on est de plus en plus sensibilisé à ces choses-là?
Je pense, enfin en tout cas j'espère, j'espère, ouais, enfin on fait tout pour, après ça dépend les institutions, ça dépend aussi cette volonté, mais ouais, je l'espère.
Parce que ça me fait aussi écho à ce que vous racontiez tout à l'heure avec, vous avez tous un petit peu décrit votre parcours avec, et vous avez, alors je parais, revenez sur si je dis des bêtises, mais je crois que vous avez tous forcément eu des diplômes ou des études en lien avec ça. Est-ce que vous pensez que pareil, c'est une obligation d'être formé, d'avoir des études, ou est-ce qu'on peut se lancer un petit peu sur le tas en se disant, ben voilà, je vais apprendre par moi-même, je vais tester, ou c'est des métiers qui sont quand même, où la connaissance théorique est indispensable, quoi.
Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il y a un minimum de connaissances théoriques à avoir.
Ouais.
Je vais reprendre ce qu'on nous a dit exactement à la formation. Très honnêtement, aujourd'hui, prendre une pelle, un râteau, une bêche ou quoi, tout le monde peut le faire.
Ouais.
La question, elle n'est plus là. La question, c'est qu'aujourd'hui, l'agricole, c'est la gestion d'une entreprise. C'est plus juste s'occuper de ses terres, s'occuper de ses bêtes. Donc en fait, en plus d'avoir ces capacités-là qu'on peut apprendre par soi-même, qu'on peut apprendre en faisant des stages, du woofing, en faisant... dans la famille, en plus de ces compétences là derrière il y a des compétences qui sont beaucoup plus tout ce qui va être compta gestion, tout ce qui va être
administration,
administratif et
comptabilité,
tout ça.
Etc.
Travailler dans ce milieu là sans formation, c'est complètement faisable, quand on trouve un employeur. Par contre, s'installer sans aucune formation, je dis pas que c'est infaisable, mais ce serait délicat, notamment auprès des banques.
Toi Solène, tu confirmes un peu ce point de vue?
Nous, on est quand même vraiment nouveaux agriculteurs. Hein. Moi, j'ai une formation en BTS GPN, mais ça ne m'a pas vraiment appris le métier agricole. Du coup, on galère chaque chose qu'on fait. on met une demi-heure, voire une demi-journée, voire une journée entière à réfléchir. Mais comment on va faire? Comment ça marche? Puis on apprend petit à petit. Et puis, il faut s'entourer aussi des bonnes personnes. Et...
Margot, d'accord aussi avec ce... ce point de vue.
Un peu des deux, parce que moi, du coup, sur la partie alimentaire, je la maîtrise. Sur la partie comptabilité, gestion, tout ça, je la maîtrise. La partie, justement, agricole, je la maîtrise pas et c'est mon père qui la maîtrise. Mais au final, j'aime beaucoup apprendre sur le terrain et avoir quelqu'un de passionné et passionnant me permet, moi aussi, d'être passionné et peut-être pas passionnante pour l'instant, mais peut-être un jour.
C'est ça. Et en plus, c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut te transmettre aussi son savoir. C'est bien. Ça fait aussi de l'intergénérationnalité, etc.
C'est ça.
Seb, tu voulais rebondir aussi?
Ouais, qu'est-ce que je peux dire? Nous, ce qu'on voit sur le projet alimentaire territorial, c'est que y a un rééquilibrage des types d'agriculture aujourd'hui sur le territoire, avec l'arrivée d'un public qu'on dit néo-ruraux, de néo-rural, qui est diplômé, mais pas forcément de diplôme d'agriculture.
D'accord.
Donc, qui se forme sur le tas, qui se forme avec des BPREA, donc brevets.
Brevet professionnel responsable d'entreprise agricole.
Là, c'est carré. On sent que ça fait pas longtemps.
Il l'a eu direct. Et donc, ces publics-là, voilà, certains peuvent avoir une idée un peu utopiste du métier et peuvent se casser les dents. Mais au final, beaucoup réussissent. Faut noter aussi une réelle entraide, une solidarité sur ces types d'installations. Et voilà, il faut pas négliger après l'agriculture productive, productiviste, qui est nécessaire à l'échelle française, voire européenne, et sur lequel le territoire a beaucoup à offrir.
Oui, donc on voit qu'il y a quand même une bonne dynamique sur ce département, qu'au final on peut encourager les jeunes quand même à se lancer dans ces démarches-là. D'ailleurs, si des jeunes devaient vous écouter là et qui devaient se lancer dans un projet comme le vôtre demain, est-ce qu'il y a des petits tips, un premier conseil, celui qui vous viendrait comme ça en tête de suite, quoi?
Apprendre la patience.
Complètement. Dans la vie en général, en fait.
Même encore plus pour l'agricole.
Ouais.
Je sais pas là.
Ouais, pas d'idée.
Il y a deux choses qu'on m'a dit. La première, c'est sur mon tout premier stage. On m'a dit, de toute façon, on ne devient pas agriculteur en 2 semaines, ni 2 mois, ni 2 ans.
Ah oui, c'est un projet de vie, ouais.
Et derrière, c'est beaucoup plus récent, on m'a dit aussi, dans l'agriculture, si t'as peur de te tromper, t'y arriveras pas. En fait, faut pas hésiter à essayer quelque chose. Si ça marche pas, c'est pas grave, mais accepte que ça marche pas et reviens en arrière. C'est comme dans la vie, en fait, de toute façon.
Ouais, ce que j'allais dire.
Il faut pas avoir peur. Tu peux te tromper sur la gestion que tu vas faire de tes terres, tu peux te tromper sur la gestion que tu vas faire de ton troupeau ou sur tes plantations ou quoi. L'important, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi tu t'es trompé et d'essayer d'arranger ça d'une façon qui te conviendra à toi.
Mais je pense que sur ces belles paroles, on va marquer la première pause. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des présentations et je pense qu'on va commencer un petit peu à approfondir. Moi, j'ai encore quelques questions un petit peu sur le fond et aussi sur l'alimentation, essayer de creuser un peu plus le sujet. Donc voilà, donc avant de continuer, on va donc voilà une petite pause en musique et c'est Margot ici présente qui nous a choisi le titre Tira de l'artiste Danit. Donc là de suite sur Radio Transparence.
Montagna, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. Tierra la más bella de todas, quieren vender tu lindo cuerpo, perdónalos porque no saben que están buscando poder en vez de amor. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin.
Kiki, c'est quoi ? La question du moment !
Vous êtes toujours dans l'émission Le Pouvoir d'Agir, c'est la rubrique La Question du Moment et je suis toujours avec Margot, Kéliane, Solène, Aurore et Sébastien et je pense qu'on a très envie d'approfondir un petit peu le sujet sur les sujets, ben, je rappelle, donc l'alimentation et l'agriculture. Alors moi, la première question qui me venait en tête, c'était, voilà, on a parlé beaucoup de l'agriculture et comment on s'implante un petit peu quand on est des jeunes. Moi, j'aimerais bien savoir, quelles sont un petit peu vos pratiques alimentaires à vous personnellement, en règle générale?
Moi, je dirais désastreuse pour ma part. Non, c'est assez compliqué. Disons que pour l'instant, j'ai une alimentation plutôt classique. Du coup, il y a parfois des plats préparés, parfois de la viande pas forcément très chère, mais du coup pas forcément de bonne qualité ou quoi. Après, il y a quelque chose vers lequel on tend en ce moment, auquel je tends en ce moment, c'est plus justement voilà, de se rapprocher du... Ben, je profite par exemple du marché qu'on fait pour aller faire mes courses. Donc comme ça, j'ai des choses locales, des choses de bonne qualité. Et voilà, donc c'est une des choses vers lesquelles j'essaie de me diriger. Il y a plusieurs autres choses, hein, comme notamment diminuer les... comment on pourrait appeler ça ? Saloperies ?
Je sais pas. Oui, c'est très clair.
Mais voilà, et du coup, voilà, c'est essayer de retourner vers une alimentation plus saine, telle que j'ai pu la connaître quand je vivais avec mes parents.
Ouais, et un lien aussi à donc davantage avec les circuits courts, etc.
C'est ça, oui.
Ok. Margot, toi, comment tu définirais un petit peu ta pratique alimentaire ?
Je dirais qu'elle a suivi celle de mes parents qui me convenait très bien. Du coup, fille de maraîchère en nature et progrès, du coup, j'ai continué à manger des légumes. Et là, aujourd'hui, je tends à essayer d'acheter beaucoup plus local, notamment sur la viande, sur les bières et sur tout ce qui m'environnemente, puisqu'on a quand même un panel d'artisans et de personnes qui font des choses super bonnes. Donc, c'est plutôt facile, en fait, d'aller les trouver. Ouais. Donc, du coup, j'ai envie de tendre vraiment vers ça, même si des fois, le pouvoir d'achat peut m'empêcher. Je préfère me priver et plutôt... plutôt acheter peu mais bon.
Et profiter de ce qu'on a localement.
C'est ça.
Et du coup, en parlant de bière, je regarde Solène, qui travaille dans le Loublon, ouais, du coup. Alors, tu fais pas de la bière, mais voilà. Enfin, dis-moi si tu fais de la bière. Mais...
pas encore bien.
Du coup, toi, ouais, t'as tes pratiques alimentaires
Ça fait donc pas longtemps qu'on est en Ariège. Au début, on connaissait pas trop les producteurs, donc on a commencé par aller au marché. Donc une manière assez facile de se fournir localement. Et là, on commence à connaître, on va à la boulangerie, à la Bastide-sur-l'Erse, qui fait du pain au levain excellent. On prend les colis de viande aux voisins. On commence à vraiment se faire un petit réseau où on commence à avoir vraiment des très bons produits. Après, des fois, on n'a pas beaucoup de sous, donc on achète moins de bio et on va plutôt favoriser le local et un peu moins le bio parce que des fois il y a des problèmes de financiers.
C'est sûr que le côté, l'aspect financier, etc., ça m'amène à une autre question. Est-ce que les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, là c'est un peu le général, on a vraiment les outils justement pour arriver à une meilleure alimentation et essayer de mieux manger, de mieux consommer, quoi. Aurore.
Mes entretiens. Du coup, alors oui, pour revenir un peu sur les pratiques alimentaires des jeunes, j'ai pu rencontrer des jeunes durant mes entretiens. Et ce qui ressort, c'est vraiment le fait qu'ils veulent consommer local. Ça passe même au-dessus du bio et on s'en rend compte que le bio, il baisse, quoi. Enfin, ils ont moins de confiance au bio, au cahier des charges et du coup je pense que j'espère en tout cas qu'il y a les outils, mais j'espère que le PETR propose les outils. Non, en vrai, oui, je pense qu'il y a vraiment les outils pour qu'on puisse consommer local. En tout cas, il y a les marchés, il y a une structuration des filières qui permettent comme vous disiez, on va au marché, on arrive à avoir des producteurs qui font de la vente locale. Donc je pense qu'il faut, c'est pas toujours simple, surtout dans les territoires ruraux, parce qu'il n'y a pas toujours l'accessibilité. Et puis, moi, je prends mon exemple, je suis étudiante et j'ai pas forcément tout le temps l'argent, même si c'est un des mes plus grandes dépenses, en tout cas l'alimentation. Donc, j'essaye de faire au mieux. Et je pense que c'est vraiment le truc de faire au mieux.
Ouais, c'est pour voir, est-ce que les jeunes ont les outils, à ton avis?
Les outils, c'est comme dans tous les sujets, il faut aussi les rechercher, les activer.
Ouais,
au niveau territorial, ce qui est identifié comme enjeu sur la consommation alimentaire de la jeunesse, c'est qu'ils sont sensibles aux enjeux de transition écologique, mais ils sont aussi capables de consommer beaucoup de street food, tout ce qui est pizza, c'est culturel aussi.
Ouais,
les comportements alimentaires ont évolué, mais mais ce qui est sûr face aux enjeux climatiques actuels, c'est qu'il y a une obligation un peu des consommateurs, donc les jeunes sont l'avenir des consommateurs de demain en grande partie, de réduire la part de consommation de protéines animales dans les repas. Donc ça sera un travail de sensibilisation amené par le territoire et à compléter par d'autres types de protéines plus végétales et favoriser peut-être des viandes locales et de qualité parce qu'on en a énormément aussi en Ariège plutôt que des comme ça. Et donc il y a toute une évolution du comportement d'achat qu'il faut accompagner et sur ça oui il y aura des outils de sensibilisation et d'accompagnement comme on a pu le faire avec par exemple des défis foyer alimentation positive ou d'autres exemples de ce type.
Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans cette réflexion-là, c'est que à la rubrique d'avant, on avait dit que l'Ariège, du coup, était un petit peu le seul département à être en croissance un petit peu positive sur le nombre d'agriculteurs. Est-ce que, pour autant, il y a des nouvelles, un peu des idées un petit peu novatrices qui arrivent en matière d'alimentation ou de plantation, enfin je sais pas, c'est...
En plomb déjà.
Ouais, il y a quelque chose qui m'amuse dans ce que tu viens de dire, c'est d'un point positif, hein, pardon, ça peut paraître, mais non, c'est en fait ce que tu as décrit, du coup, moins manger de viande rouge, chercher des protéines plus dans les protéines végétales et tout ça, ben en fait, et manger beaucoup plus local, c'est complètement un retour en arrière. Parce que c'est à l'époque, alors je voudrais pas vous dire quelle époque, je suis mieux en histoire, mais dans l'idée... Ouais, voilà, c'est ça, c'est vers ces eaux-là. La viande rouge, c'était quelque chose qui était pas, enfin, la viande en général, il y avait les volailles, il y avait les trucs comme ça, mais c'était pas consommé à chaque repas. C'était un peu festif quand il y avait de la viande rouge et des choses comme ça. Et effectivement, voilà, c'était beaucoup plus, il y avait beaucoup plus de jardins personnels aussi. On allait voir directement l'agriculteur d'à côté pour avoir des choses. C'était beaucoup moins, après, il y a eu le grand boom, il y a eu l'arrivée des supermarchés et tout ça, des hypermarchés. C'est pas une mauvaise chose en soi, je pense, parce que c'est nécessaire aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour avoir une bonne alimentation, je pense qu'un retour vers ça serait plutôt une bonne chose. Et on le voit aussi sur les marchés, avec le retour au zéro déchet, où on propose aux gens de venir avec leur pot pour récupérer telle ou telle chose. Voilà. Ou avec les consignes ou autre. Voilà, c'est des choses qui, en fait, arrangent et les producteurs et, en soi, les consommateurs aussi.
Et pour toi, Margot, du coup, les idées innovantes, ça serait un retour aux anciennes idées. Donc voilà, c'est un peu le paradoxe, quoi.
Oui, tout en y mettant de la modernité, oui. Et j'entends pas de la mécanique ou quoi, mais voilà, vivre avec son temps, c'est bien aussi. Et moi, je vois, je vends mes tartinables à des épiceries fines et au final, je les vends dans le territoire ariégeois et on se rend compte qu'il y a beaucoup de petites épiceries plus ou moins grosses en fait qui font que du produit local ou du produit qu'en vrac ou zéro déchet et du coup on arrive à trouver des petites épiceries avec que du produit locaux donc je trouve ça super super chouette quoi.
Ouais. Solène pareil.
Oui, et puis au niveau de la bière, avant, il y avait quasiment une brasserie dans chaque village. Et là, avec l'essor des microbrasseries, on retrouve un peu ça, de plus en plus local et de moins en moins acheté aux grandes marques, Heineken, Carlsberg, tout ça. Et là, nous, on aimerait bien faire un petit stand devant chez nous et vendre en fait nos œufs localement. Alors ça, on se demande si ça va marcher de pouvoir mettre en honesty box, alors en français, où les gens payent. Alors est-ce que ça marcherait?
On y réfléchit aussi.
En
c'est
France,
quelque chose, il y a plusieurs. Y a
et
plusieurs
avant, ça se faisait
qui,
beaucoup, vu comme tu disais, les gens allaient directement aux producteurs.
Il y a plusieurs, agriculteurs en ce moment qui réfléchissent ou qui sont déjà retournés à ce système-là. De mettre à disposition avec de quoi payer, enfin une boîte où on paye effectivement. Ouais. Et soit il y a un tarif précis, soit les gens donnent ce qu'ils veulent.
Plein de personnes me disent, mais non, ils vont toutes voler. Non, alors que moi, je dis, bah non, j'y crois à ça.
Et je trouve ça
apparemment,
bien. c'est vrai.
Apparemment, ce qui se disait, c'est qu'il y a de plus en plus. Enfin, il y a des gens, en fait, ça incite les gens à donner un peu plus, même, au contraire.
Et on revient à des valeurs qui sont extrêmement positives, en tout cas, que moi, j'ai envie de partager. Le fait de la confiance, de faire travailler les gens qui nous entourent, et tout ça dans une harmonie, en fait. Et je trouve ça beau. Moi, j'aimerais bien y retourner, en fait. Dans ces box où effectivement on fait confiance à la personne et il y a un climat de confiance et de réciprocité qui se fait entre et les producteurs et le consommateur quoi. Ça serait chouette.
Seb, tu voulais rebondir ?
Non, mais sur ce qui a été dit, il y a l'exemple de l'épicerie Tout est du coin, où l'agricultrice, ben, parce qu'elle a des obligations pour son activité agricole, laisse le client peser, payer, payer plus tard même. D'accord. Donc il y a beaucoup d'adaptabilité de la part des agriculteurs. Et après, l'enjeu, c'est aussi de développer, d'être pluri-compétences, on dit, avoir de nombreuses compétences. Certaines le veulent, d'autres non. Il faut aussi laisser le choix à l'agriculteur qui veut juste produire de l'alimentaire, d'avoir des circuits logistiques et de transformation et de vente pour valoriser ses productions localement. Et un dernier outil qu'il ne faut pas négliger, sur lequel on travaille au travers du projet alimentaire territorial, c'est la restauration collective. Donc il y a une université où il y a des étudiants. Depuis l'inflation, on relève que beaucoup d'étudiants ou beaucoup de jeunes doivent se fournir dans les banques alimentaires. C'est très grave. Donc l'enjeu pour les collectivités locales d'améliorer leur approvisionnement pour les cantines scolaires en produits locaux, en produits bio et en produits durables est primordial.
Vous pensez que du coup ce métier-là, cette branche de métier-là est très liée avec la confiance de la population et la proximité, on va dire, entre les producteurs, les habitants et aussi, comme disait Seb, les politiques publiques, quoi.
Elle est lourde celle-là. Hein.
Ouais. Non, mais moi, pour redire la question, peut-être à moi, je représente là la structure du PETR, les élus. Qu'est-ce que vous attendriez, vous, du maire du village, des élus locaux ? Quels seraient vos besoins pour vous aider ?
Dis plus simplement, c'est vrai, j'avoue.
Pour ma part, moi, ce que j'espérais, c'est qu'en fait... Il montre que, et c'est ce qui est fait dans mon petit village, il montre qu'il a envie en fait que des jeunes artisans, producteurs, agriculteurs viennent s'installer chez lui et qu'ils mettent en place, je connais pas trop la politique, mais je sais pas si c'est possible, mais faire des, pas des lois, mais faire des mesures en fait pour qu'on puisse nous exister et que ça soit facile.
Quel village du coup ?
J'habite à Sorat.
Mais oui, c'est un peu ça. Il y a des zones où parfois on a l'impression de ne pas être soutenu ou encouragé par un petit peu justement les communes. Et je pense que c'est dommage parce que c'est super important que ce soit pour l'emplacement du marché, faire un emplacement où c'est agréable pour tout le monde, pour les commerçants et pour les consommateurs. Il y a des endroits où il y a des choses adaptables et je pense que ça peut être parfois intéressant d'en discuter avec ceux qui sont au marché et de prendre en compte ce qui se dit derrière.
D'accord, ouais, essayer de trouver des outils pour récolter un petit peu de pas la parole, mais les idées ou les besoins, les envies. C'est aussi un petit peu le sujet, en fait, de ton master, au final.
Ouais, de consulter et aussi co-construire avec les jeunes, donc ça peut être sympa. Pour rebondir sur ce que tu disais, de les impliquer et de les mobiliser pour intégrer, en fait, leurs paroles, pour voir ce qui peut aller, ce qui va pas. Et vraiment, ça peut être que chouette et ça peut que enrichir et rafraîchir un petit peu peut-être des idées un peu vieilles, on va dire ça comme ça.
Ouais, mettre un peu de jeunesse là-dedans.
Tout à fait.
Seb ?
Non, une mission qui a été confiée à Aurore et on verra à la rentrée si elle a réussi. En tout cas, aujourd'hui, c'est déjà bon signe. C'est d'essayer de raccrocher des jeunes à ce qu'on a appelé le conseil local de l'alimentation, qui est un espace, un lieu, qui peut être un jour sur une ferme, un jour dans un restaurant, un autre jour, qui va sur des lieux alimentaires et qui réunit citoyens, élus, acteurs professionnels de l'alimentation du territoire, et où on dialogue, on co-construit un peu des actions et des projets pour répondre à cette envie-là de relocaliser notre alimentation et de manger mieux demain.
Solène, toi, tu étais au courant un petit peu de ce conseil ou pas du tout, de ce genre de dispositif, de ces études, du travail d'Aurore, de tout ça?
Pas vraiment. Après, j'ai quand même eu beaucoup de soutien de la Comcom de Mirepoix. Oui, après, il y a eu quand même avec la MSA, ils ont organisé des petits déj où ils sont venus chez nous. C'était le premier petit déj. Et ça a été super intéressant parce que déjà, ça a mis en relation plusieurs agriculteurs. Puis ouais. Il y avait voilà, des personnes de la MSA, des personnes du territoire. Bah, tu étais là, du coup. Donc, c'était assez intéressant.
Ouais, en fait, l'idée, c'était quoi ? C'est de venir faire découvrir à d'autres personnes un projet autour de l'agriculture.
Non, mais les petits déj, ce n'est qu'un exemple. Là où le territoire essaye de travailler, mais les acteurs agricoles aussi, comme je pourrais citer l'ADA, la Chambre d'agriculture, enfin, que les agriculteurs se rencontrent entre eux, c'est un phénomène de société globale pour moi. D'accord. À titre perso. C'est voilà, recréer du lien, et aujourd'hui, ce qui marche, notamment dans ce conseil local de l'alimentation, c'est du partage d'expérience. Donc, ça veut dire inviter les gens à partager leurs projets, à partager ce qu'ils font. Ça va nourrir les idées d'autres personnes, ça va aussi poser des questions à certains. Et donc voilà, les petits déj, c'était dans l'optique de créer de la rencontre et du partage.
Oui, ben c'est au même titre un petit peu que cette émission radio, c'est donner envie aux gens de se rencontrer, de partager un petit peu leur expérience par rapport à leur projet, et c'est ce que Aurore a réussi aussi à faire avec ce projet. Est-ce que d'ailleurs, pour un petit peu conclure, avant de passer un petit peu sur la dernière partie, est-ce que ça vous a donné envie un petit peu ce projet-là, l'étape d'avant où on a un petit peu discuté sur le contenu de l'émission, etc. Est-ce que ça vous a donné envie de partager aussi ça avec d'autres jeunes qui portent des projets là-dedans, de créer plus de rencontres, plus de liens en fait entre les porteurs de projets, et qui en plus ne font pas la même chose, on l'a très bien vu avec vous trois, mais il y a quand même un partage d'expérience intéressant.
Oui, c'est super enrichissant en fait de rencontrer d'autres agriculteurs qui sont à peu près au même niveau que nous et qui ont d'autres expériences, voir les galères qu'ils ont eues et de se dire « Ah, mais on n'est pas les seuls en fait, c'est aussi galère pour tout le monde et il y a aussi plein de trucs super et ils sont heureux aussi eux comme nous. » Donc ouais, c'est super important de se rencontrer entre agri.
Oui, moi ouais, je trouve Margot. Ça ultra intéressant. Puis des fois on a des petits coups de mou, donc le fait d'être ensemble, en fait, moi je.
Enfin, des ça fois j'ai un petit coup de mou,
ouais, voilà. Ouais, ouais. Je suis à balle et je remercie Aurore aussi parce que grâce à elle, toute la partie PETR, toutes ces choses-là, en fait, j'en avais absolument pas conscience et je suis pas allée chercher l'information parce que moi-même, la porte n'était pas ouverte ou la graine n'était pas semée dans mon esprit et j'allais pas la chercher foncièrement. Et en fait, c'est Aurore, grâce à son invitation et au moment on a passé et qu'elle m'a posé plein de questions, en fait je me suis dit mais il y a quelque chose que je connais pas et j'ai envie d'apprendre des choses et au final ben, j'en ressors un peu plus avec des connaissances et potentiellement pourquoi pas au fur et à mesure pousser cette envie là d'apprendre des choses et quitte à les retransmettre ou en tout cas moi aussi planter la graine avec ce que je connais et approfondir ces connaissances là donc merci à toi Aurore.
Merci beaucoup.
Attention, moment émotion là
j'avoue,
au studio.
Merci, c'est très gentil.
Kylian, ouais, pour finir
moi je dirais un grand oui à ta question parce que j'ai toujours été dans le soutien, l'entraide, la transmission de connaissances, donc bien sûr que oui. De base ça faisait partie de mon projet, donc c'est un premier pas vers ce futur projet pour moi et enfin vers ces futures envies là et donc j'ai été partant dès le début et je suis partant pour continuer sur ça quoi. Et
moi je rebondis sur ce que disait Margot, c'est Aurore malheureusement son stage finit en septembre, moi je vais sûrement rester. Quel est le canal de communication selon vous à utiliser pour toucher les jeunes aujourd'hui?
Aujourd'hui je dirais que c'est particulier, c'est à dire qu'en fait on a des agriculteurs qui sont très connus par TikTok. On a des agriculteurs qui sont très connus par YouTube. Instagram, c'est plus sur les... C'est plus local, on va dire. Donc, ça dépend de la façon dont tu veux communiquer. À l'échelle, en fait, je pense que si tu veux communiquer à l'échelle nationale, l'idée, ce serait d'essayer de se rapprocher d'un de ces agriculteurs, justement, qui a beaucoup de followers sur TikTok ou YouTube ou quoi, et voir avec eux, leur parler du projet, s'ils adhèrent, aller plus loin avec eux. S'ils adhèrent pas, bah... aller voir avec un autre. Je pense que pour moi, bah, voilà, passer par quelqu'un qui a une grande notoriété et une sympathie de son public, ça peut faciliter l'accès à toutes ces informations.
Ouais, un influenceur agricole.
Ouais. Ouais, donc peut-être ouais, plus c'est sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça fait aussi écho à pas mal de débats qu'on a pu avoir dans l'émission Le Pouvoir d'Agir, bah, sur d'autres thématiques aussi, avec l'importance des réseaux sociaux, mais aussi un petit peu les dangers parfois. Bref, je pense qu'il est temps d'enchaîner avec le petit jeu de questions-réponses assez dynamique, assez rapide pour finir cette émission. Voilà, l'idée c'est un peu de savoir plus ce que vous avez ressenti personnellement, un petit peu les côtés émotions, etc. Mais avant, on va se laisser en musique. musique, avec une musique qu'a choisi Kellyanne, et c'est le titre L'agriculteur de l'artiste Ridan. C'est de suite sur Radio Transparence.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras-le-bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison, avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Y'a trop de feux rouges dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur.
Kiki, c'est quoi? La question du moment!
Nous sommes de retour dans l'émission Le Pouvoir d'Agir, c'est la dernière rubrique de cette émission. Et pour finir sur notre thématique de l'alimentation et de l'agriculture, je vais proposer à mes invités de participer à un petit jeu de questions-réponses basé sur leur expérience personnelle dans leur projet. Et toi aussi, du coup, Aurore, avec ton master. Je suis donc toujours accompagné de Kélian, Margot, Solène et Aurore. Sébastien a dû partir. Et on commence de suite avec la première question. Voilà, alors citez-moi votre plus grande crainte liée à votre projet ou à la thématique de la question, quoi.
Pour ma part, moi, ma plus grande crainte et qui reste aujourd'hui, et je ne sais pas si c'est parce que je suis chef d'entreprise, mais c'est la peur de ne pas réussir et la peur de que les gens n'aiment pas ce que je fais. Ça m'angoisse beaucoup.
Rien que ça, d'accord. Je pense que c'est humain, hein.
Ouais, ouais.
Toi, Solène?
Ma plus grande crainte, vu que je travaille avec mon compagnon, ça serait que, vu qu'on vit, on travaille, on est tout le temps ensemble, que le projet de la ferme fasse foirer notre couple.
Oh, c'est très ok, ok. C'est très, très humain
c'est
aussi.
C'est pas du tout c'est très le cas, donc ça va bien.
Et
bien.
On avait dit du personnel, on est dans le personnel. Toi, Kélia?
Ouais, assez quelque chose d'assez classique, hein, je dirais aussi le fait de pas réussir. Après, derrière, il y a d'autres craintes. Moi, j'ai d'autres craintes plus liées à des événements un peu aléatoires sur l'environnement ou quoi. C'est plus ce genre-là, que ce soit, je sais pas, une grêle sur les récoltes, que ce soit un incendie, que ce soit voilà.
Et toi, Aurora, alors le master. Alors j'imagine que là, là, on va tous partir, prendre un café.
Il n'y en a pas qu'une seule de craintes en fait. Hein. Ouais, j'ai pas mal de craintes par rapport à mon mémoire parce que c'est un gros boulot et en plus mêlé à un stage, ben c'est pas toujours simple d'arriver à allier en tout cas l'équilibre des deux, mais bon, on fait avec. Et ouais, peut-être ma plus grande crainte là actuellement, c'est d'arriver à retranscrire tous mes entretiens, parce que j'ai énormément d'entretiens et peu de temps pour le faire, et du coup c'est un peu compliqué, mais je prends plaisir de le réécouter, pas m'entendre mais de les réécouter, ouais, parce que j'ai rencontré des belles personnes quand même.
C'est beau, c'est très beau. On enchaîne de suite avec t'es toujours Aurore, hein, comme ça au moins là t'es la lancée, quoi. Bah, ta plus grosse galère, hein, du coup?
Ma plus grosse galère durant mon stage, ça a été de mobiliser les jeunes. Des fois, c'était pas toujours simple parce que j'ai ciblé des jeunes qui sont souvent installés, du coup, qui sont agriculteurs et ils ont pas toujours le temps et je peux les comprendre. Et c'était un peu la galère d'arriver à pouvoir les mobiliser et j'ai la chance quand même que vous ayez pu venir, donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que ça m'a. Ouais, j'ai eu un peu peur. À un moment, là, je me suis dit. Comment ça va se passer un peu, mais on y est arrivé, c'est ce qui compte.
Bah, souvent avec de la persévérance, il finit toujours un moment où les étoiles s'alignent et tout marche. Voilà.
Il faut être déterminé.
C'est ça. Margot, ta plus grosse galère.
C'était au tout début de l'entreprise, je devais faire la transformation. Il faut trouver les bocaux, il faut comprendre comment ça marche parce que il y a des flips, il y a des contenances, il y a des millilitres alors que moi je veux des grammes. Enfin, c'était ultra compliqué. En plus, je transforme dans un laboratoire que je loue au Jardin de Haute-Vallée à Cuisa et du coup, ils ont des capsuleuses, donc c'est ultra technique. Et je me retrouvais à perdre beaucoup de temps à avoir loué le laboratoire et le matin même à pas avoir les bocaux. Et à stresser de me dire qu'en fait, je peux pas faire ma transformation et à me dire que je vais être à la bourre. Et en fait, la vie a fait que pile au moment où j'en avais besoin, ils sont arrivés à midi et ils étaient tout mignons. Voilà.
Non, ça va au final. C'est une grosse galère, mais qui avec un côté positif.
Oui, complètement.
Toi, Kélia?
La plus grosse galère,
c'est la vie.
Non, ouais, clairement. Non, je dirais que la plus grosse galère qui m'est arrivée dans le métier, c'est quand t'as le troupeau qui veut pas aller là où il faut. Donc tu vas les chercher en pleine dans le pré, t'essaies de les ramener à la bergerie pour la traite, elles viennent pas.
Ouais.
Donc tu galères à les faire venir, que le chien te les renvoie à l'opposé aussi.
Ah ouais,
dans la même journée,
ouais, hein.
Te les renvoie à l'opposé, donc tu commences à prendre du retard. Donc au final, tu commences déjà. Et quand c'est en plus une journée où t'as eu que des galères, t'es épuisé moralement et physiquement, t'as qu'une envie, c'est que ça se finisse, tu vois. Et c'est là où justement les brebis veulent pas, le chien veut pas, les deux chiens s'engueulent en même temps, que derrière t'arrives à la traite.
Il pourrait
faire mon. Oui, ah oui, en plus on était sous la pluie, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle.
C'est pas rigolo.
Mais ça encore, la pluie, ça me gêne pas. J'ai de la chance, j'ai pas de problème avec. Mais du coup, on arrive à la bergerie, tu commences à essayer de les faire monter sur le quai de traite, elles montent pas. Donc t'es obligé en fait à chaque fois, après chaque lot, parce que c'était des lots de 12, donc sur les 130. Voilà. Donc après chaque lot, bah, tu les fais descendre, tu vas chercher les suivantes et tu les pousses et elles montent. Il y en a une qui monte, deux qui montent et puis tout le troupeau repart à l'opposé. Une qui. Voilà. Et donc ça, c'était une de mes pires journées.
Ouais. La journée, ça me fait une quoi.
Parce qu'en plus, à chaque fois que tu vas pour brancher les postes de traite, tu prends des coups sur les poignets là.
Ouais.
Quand elles ont pas envie. Et là, ce jour-là, il y en a aucune, ou pas, j'abuse, mais la plupart n'avaient pas envie.
Et là, tu pries pour qu'il y ait une seule chose, c'est qu'on te dise, vas-y, tu finis, on t'a fini, rentre
ouais,
chez toi.
Ouais, bah Oli, ouais. Eh ben, Solène, tu vas devoir passer après cette galère pragmatique, en fait. C'est, voilà, c'est ça, c'est une galère, quoi.
Des galères, il y en a eu tellement que j'aurais du mal à choisir, donc je vais plutôt choisir un truc très général. Je suis agricultrice, jeune et femme. Alors du coup t'as aucune considération en fait. Les D'accord. gens ils vont voir mon copain direct, elle, oh ça doit être une employée ou c'est juste la femme d'eux. Et D'accord, ça ouais, c'est okay. une grosse galère. Ouais,
alors c'est, ça c'est une autre thématique, et là on pourrait y passer mais une autre émission en fait, okay. entière. Mais ça peut être intéressant, pourquoi pas, hein, Aurore, de soutenir ton master avec une soutenance bis sur la place des femmes dans le métier de l'agriculture.
Avec plaisir.
Voilà, et on restera à l'écoute, hein, si jamais ça, si jamais ça ressort. Pour finir, parce que c'est vrai que ben, on a déjà mangé un peu le temps, j'aimerais bien finir un peu sur ben, voilà, les perspectives un peu de votre projet, de vos projets à tous, que ça soit ben, toi Aurore avec la finalité de ton master, et de vous aussi ben, un peu votre état d'esprit, si vous avez un peu la niaque ou est-ce que voilà, ben, justement vous êtes un peu en baisse de motivation. Bon, c'est aussi humain, mais j'aimerais bien savoir un peu, pour passer un petit message aussi à des jeunes s'ils nous écoutent et qui veulent monter ce genre de projet, quoi.
Je prends la parole.
Vas-y.
Bah, personnellement, je suis à fond en fait. Je suis au début. On est en CFI, donc sur un contrat, sur une idée d'association derrière. On a plein de projets, on est sur la même longueur d'onde, donc il n'y a qu'une chose à faire pour nous, c'est let's go. Par rapport à ce que je pourrais dire pour les jeunes qui nous écoutent, c'est un métier de passion. C'est un métier où je pense, si t'es pas passionné et si t'as pas envie de faire plein de choses, parce que tu touches à tout, t'es obligé de toucher à tout. Si t'as pas au moins ces deux conditions-là, ça va être très dur. Mais voilà, c'est vraiment un métier vraiment passionnant et personnellement, je vis ma vie de rêve depuis que je suis dedans, quoi.
Mario ?
Je rejoins Kélian, je vis ma vie de rêve. Et moi, ce que je rêverais, et d'ici peu, je l'espère, c'est effectivement trouver une belle maison avec un joli terrain, un petit cours d'eau et pourquoi pas agrandir l'entartineuse en maison d'hôte et en table d'hôte. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez une petite maison avec un petit cours d'eau et du terrain.
Solène ?
Bah, je rejoins ce que vous dites, hein, que c'est un métier de passion et surtout, en fait, c'est génial d'apprendre tellement de choses. Enfin, moi, j'ai appris à souder, j'ai appris plein de choses au niveau agricole, tellement de trucs. Tous les jours, en fait, c'est nouveau, apprend des nouvelles choses et c'est tellement enrichissant. Après, la perspective d'avenir, j'ai envie que ma ferme soit durable dans tous les sens du terme. Et après, on a encore plein de choses à faire. On est dans le sprint de 2 ans, donc on est qu'à 1 an et demi, il y a encore plein de choses à mettre en place. Et avec l'atelier de transformation cidre, c'est pas fini, on va pas s'ennuyer, je pense.
Aurore, en 15 secondes.
Alors,
top chrono.
La poursuite, ça serait valider mon master, que tout se passe bien, et j'aimerais bien rester en Ariège si j'arrive à trouver un travail. Et voilà, je pense que.
C'est déjà bien.
C'est déjà pas mal.
Ça serait déjà merveilleux.
Oui, tout à fait.
Ok, et bien on voit du coup que bon, ben, tout le monde s'implante en Ariège, tout le monde veut rester en Ariège, on est bien, on est beau. En plus, il y a la courbe croissante que nous a expliqué Sébastien. C'est fabuleux. Donc voilà, je pense qu'on va en rester là pour cette émission. En tout cas, voilà, merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission et d'avoir au final un petit peu partagé un morceau de vos vies, quoi, et de vos projets professionnels. Je rappelle que le pouvoir d'agir, c'est le jeudi à 20h et le samedi à 13h au 93.7 partout en Ariège. Merci à vous tous de votre écoute et je vous laisse en musique avec le titre choisi par Solène et c'est The Well de l'artiste Scarcrow. A bientôt sur Radio Transparence.
Le vinyle crépite, un souffle thoracique m'emparait, s'applique à donner le déclic, m'en fous du public. Du rap et des clics, des faux clashs, du cirque, t'aimes si pathétique. Tu voulais du trash, que je pose pour du cash, que je fasse la potiche, d'une musique potage. Qu'au moins de petits hicks, on stoppe le voyage. Qu'au moins de petits flips, on stoppe l'abordage. On fait de la musique, même face à l'orage. Pour ta maison de disque, t'es qu'une croix sur une page. Ici on fabrique un vaste édifice, envié par ton crew à chacun de nos passages. Des fonceries bocages qui prennent en otage une culture malade qui n'est d'autre que plumage. Un morne enrobage, un triste mirage. Voici un grain de sable de plus dans vos rouages.
Jump. un art inutile qui au vent des villes me rend imbécile. J'ai pas d'évangile ni même le nombril rendant infantile ces phases indociles. Je continue ma tâche, il faut jusqu'au crash du blues cradabile. Dans le rap suis la tâche qui se coule les racines d'un présent sans âme. En crash en sérine de Londres à Paname, remballe tes infos où l'inculte se noie. Chez nous la vie se trappe un de vos tournois, tout tout par sa croix. La haine les dégâts, la télé terrorise et change l'homme en proie. Je défoncerai vos cages qui prennent en otage une culture malade qui n'est que plumage. Un morne enrobage, un triste mirage. Voici un grain de sable de plus dans vos rouages.
C'était Le Pouvoir d'Agir sur Radio Transparence, une émission pour et par les jeunes dans le cadre de l'expérimentation Agir.
Agir avec la jeunesse pour un impact rural.
Si vous voulez réagir, aider à porter un projet ou donner des conseils, contactez le 07 66 78 78 40.